que le temps passe, juste dire deux, trois petites choses sur le fait que on n'a pas fait vraiment de documentation sur TLM. On a un blog qui a permis d'accompagner un peu les utilisateurs à un moment, mais finalement, on n'a même pas tellement donné l'adresse du blog. C'était surtout des utilisateurs qu'on a accompagnés, c'est-à-dire ceux qu'on connaissait, on les accompagnait sur des projets, et donc on leur expliquait, c'était pas suffisamment intuitif, mais on avait pris le parti d'avoir expliqué un petit peu comment ça marche, etc. Il aurait fallu, pour que ce soit vraiment, que les utilisateurs puissent être autonomes, qu'on édite peut-être un petit mode d'emploi, ou un petit tutoriel en vidéo, ou quelque chose comme ça, qui aurait expliqué certaines choses qui ne sont pas évidentes, surtout justement quand on vient changer les usages, les habitudes. Alors nous on avait juste 2-3 mots à dire aussi sur les entretiens avec les collaborateurs, donc très très rapidement pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion. On a mené 4 entretiens avec, on voulait avoir un point de vue pas seulement des utilisateurs mais aussi des gens qui avaient travaillé à la plateforme. Donc pas selon un guide d'entretien puisque ça aurait été contre-productif dans ce cadre-là, parce que ce sont des gens qui ont travaillé avec des temporalités différentes, etc. Et ça aurait été contre-productif de les soumettre au même guide. Mais on voulait avoir des différents points de vue. Donc on a interviewé, ou on va interviewer, des concepteurs de l'outil, des développeurs, des designers UX, des acteurs institutionnels ayant soutenu et financé le projet. Donc c'était vraiment, ça me semblait intéressant aussi de voir, par exemple, les gens qui avaient financé la DGLFLL. DGFLL. Bon, enfin, voilà, la délégation aux langues françaises et aux langues de France. Ou à la SOFIA, des organismes qui soutiennent le livre. ECNL aussi a financé pas mal. Donc voilà, on essaie de retracer. Mais comme c'est assez ancien, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont en poste aujourd'hui. Donc, ça c'est pour auprès de qui ? Pour aller où ? On avait une vision un peu floue. On a décidé de procéder plutôt de manière déductive qu'inductive, en fait. C'est-à-dire qu'on s'était dit soit on arrive avec une hypothèse et on teste l'hypothèse auprès de l'utilisateur, soit on s'est inspiré plutôt de ce qu'on avait fait avec vous, on arrive avec des choses assez ouvertes, des questions assez ouvertes, et on voit ce qui en sort, ce qui en émerge. Donc, d'un positionnement, le nôtre, qui était plutôt théorique au départ et nourri de nos questionnements en recherche sur la traduction, par exemple, on avait un peu cette idée de qu'est-ce qu'une expérience comme celle de TLM permet de comprendre à la pratique de la traduction. On est passé plutôt à un positionnement qui serait plus information et communication. Je crois que c'est aussi beaucoup lié aux discussions qu'on a eues avec Céline, notamment, de réflexion sur l'interface numérique, l'interaction, la conception, l'évolution d'interface, et puis un questionnement plus sociologique, vous l'aurez compris, centré sur les usages. Donc on a fait à ce jour 4 entretiens avec Camille de Toledo, qui est donc l'écrivain et artiste, cofondateur de la Société européenne des auteurs et qui a beaucoup été impliqué dans la V2. Leïla Dakhli, chercheuse, cofondatrice, alors elle est historienne, cofondatrice de la Société européenne des auteurs aussi et impliquée dans la V1. Joseph, ici présent, responsable de la plateforme, enfin responsable technique et de la migration de la plateforme depuis 2015. Et le premier développeur, Jérôme Andrieux. Alors, on a des pages et des pages, on n'a pas encore fait le bilan, donc on va vous épargner tout ça. Simplement pour vous dire 2-3 petites conclusions, début de conclusion qui émergent. Sur le plan de la vie d'un projet, la gestion d'un projet, il est apparu clairement que la définition même du projet résultait à la fois de visions différentes des concepteurs sur la fonction de TLE. On ne sait pas s'ils s'en sont rendus compte entre eux, mais nous on s'est rendu compte en les entendant que il y avait 3 axes différents en fait qui se dégageaient. De 3 visions de la plateforme. D'abord, un lieu de travail pour les gens du métier du livre et de l'écriture. Vraiment un espace de travail en ligne. Ensuite, il y avait l'axe réseau social pour se faire connaître et pour faire connaître son travail. Au tout départ, il y avait cette idée de faire une sorte de marché du livre, salon du livre permanent, quoi. On pouvait montrer des bouts de traduction, etc. Et puis, le troisième seulement, qui était l'axe outil pour la traduction. Donc finalement, cet aspect traduction n'était pas là au début, il est arrivé seulement après. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est arrivé parce qu'il y avait institutionnellement un soutien, enfin un travail en cours de demande de subvention avec une association de traducteurs, Atlas, qui a fait pencher le projet vers la traduction Et finalement, cette demande de subvention, ce projet est tombé à l'eau, donc ce partenariat ne s'est plus fait, mais la dimension traduction est restée. Non, mais c'est dingue quand même. Enfin, nous, on a vraiment été étonnés quand on a découvert ça. On s'est dit, mais on n'avait jamais compris le projet comme ça. Donc voilà, donc c'est à la fois, ça résulte à la fois de visions différentes des concepteurs, mais de circonstances très pratiques et très matérielles liées au soutien financier et institutionnel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que c'est redevenu un projet de recherche, c'était leur attachement à UDPM, et du statut des acteurs qui menaient le projet. Et donc là, on a eu à la fois, vous l'aurez compris, des écrivains, des chercheurs, des traducteurs, mais aussi des start-upers ou membres de start-up. Les gens d'Actia Luna, par exemple, avaient vraiment cette idée ce qu'un de nos interviewés a appelé le mythe de la start-up, que ça allait finir par marcher. alors que les chercheurs étaient plus intéressés par qu'est-ce que ça génère en termes de changement. Enfin voilà, tout le monde n'avait pas le même objectif. Donc, et le fait aussi, quelqu'un nous a dit très justement, c'était clairement un projet d'humanité numérique avec tout ce que ça implique de transversalité, mais le terme n'existait pas encore. Les humanités numériques, c'était pas conceptualisé du tout, et donc voilà, c'était un peu à l'aveugle en fait, c'était un peu les humanités numériques à l'aveugle. Sur le plan technique, ce qui est apparu très clairement aussi, c'était la prégnance du défi de l'alignement automatique de texte. C'était ça en fait à la base qui a déterminé le segment, qui a déterminé. C'était donc, il y avait cette idée de vouloir aligner, de pouvoir aligner automatiquement des textes dans différentes langues. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, l'innovation, c'est aussi la contrainte à générer l'innovation. Ça, finalement, cette histoire d'alignement qui était à l'époque un débat très, très vivant dans le numérique et qui est maintenant plus du tout d'actualité, a conditionné l'approche par la notion de segment de texte, mais finalement il s'avère que ça a plutôt été un pari raté en fait et que c'est le collaboratif qui a explosé, notamment avec Google Drive, qui n'existait pas, je tiens à le dire, au moment où Thierry a commencé. Google Doc, il existait et commençait tout juste, mais il n'y avait pas encore de plateforme, d'endroit où ranger ses textes, c'était juste des liens avec des documents tout seuls. Donc voilà, ça c'était aussi étonnant de voir que finalement on s'est dit, mais cette histoire d'alignement, on aurait pu aussi décider dès le début que c'était un alignement manuel et faire confiance à la compétence linguistique, mais bon, voilà, on perdait du coup l'aspect innovation technique de la machine, etc. Et sur le plan de la traduction, cela fait apparaître évidemment que les usages sont extrêmement différents d'un traducteur à l'autre, même au sein de la traduction littéraire et même au sein de la communauté plutôt réduite des traducteurs professionnels de littérature ou de sciences humaines. Ça a fait apparaître aussi ce qu'on savait déjà un petit peu, mais là aussi la notion de collaborative, elle a été mise en avant, maintenant elle est très mise en avant dans la plateforme, elle n'était pas autant au début. Ça a fait apparaître que les gens travaillaient beaucoup plus seuls qu'en groupe. Et que finalement, ce que Joseph a très bien identifié dans l'entretien qu'on a eu avec lui, en fait, il a souligné le fait que cette approche de traduction collaborative pouvait répondre à des besoins, mais dans de nouvelles pratiques de traduction qui n'étaient pas spécifiquement littéraires. Et alors, on avait évoqué tout à l'heure la traduction des mangas, mais Joseph a parlé par exemple de la traduction des sous-titres de films ou de séries, des choses comme ça, où là, les gens travaillent à plusieurs, où ce ne sont pas les mêmes rapports aux éditeurs, aux textes, aux droits, etc. Voilà, donc tous ces usages très très différents font que il y a quand même quelque chose à garder. Enfin voilà, ça a généré tout un tas de questions. Alors peut-être je vais te laisser finir sur ces questions. Oui,
des questions qui vont ouvrir la discussion, j'espère, mais en fait, donc, là où on en est aujourd'hui, c'est la prochaine étape, c'est vraiment rapprocher ou de mettre face à face et comprendre ensemble les pratiques et usages donc, des utilisateurs et pratiques et usages des concepteurs-développeurs qui pour l'instant se regardent un peu. On a les deux discours en face à face comme ça et ça a suscité quelques questions qu'on lance aussi pour ouvrir un échange. Donc la question de l'appropriation de l'outil envers et contre tout presque, et est-ce que quel est le prix en fait aussi à payer pour s'approprier un outil? Je pense que nous on s'est beaucoup demandé pourquoi est-ce que ça ne prend pas, pourquoi est-ce que même après avoir accompagné des utilisateurs, fait des ateliers, Camille en a fait pas mal, moi aussi j'en ai fait pas mal, donc véritablement on prend les utilisateurs par la main, on leur montre comment faire, et en fait, ça ne débouche sur absolument rien. Enfin, il n'y a pas de... Dans la durée, rien ne se passe, donc on l'utilise une fois et puis on abandonne. Les usages, est-ce qu'on peut en inventer? Est-ce que nous, on aurait pu en inventer d'autres? Est-ce qu'on est en mesure? Est-ce que, comment est-ce qu'un du point de vue donc de la conception, comment est-ce qu'on invente en avançant de nouveaux usages? Beaucoup de gens nous disaient, mais vous devriez, par exemple, mettre TLHub à disposition de gens travaillant avec des images ou de la vidéo ou toutes sortes d'autres choses. C'est une vraie question, outre la question des moyens, évidemment. Comment est-ce qu'on prend en compte des usages qui, d'après des personnes interrogées, disent sont réels? Comment est-ce que TLHub prend ça en compte? Comment TLHub réagit à ça? C'est la question, enfin le mot de consommateur aussi. Enfin, on se disait, est-ce que un usager, je ne sais pas si vous avez une préférence pour l'angle autre terme, mais est-ce que ce ne sont pas aussi ces gens interrogés, des consommateurs d'outils, des consommateurs de numérique en général? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change, même s'ils ne payent pas pour utiliser TLHub? Qu'est-ce que ça modifie? Et enfin, est-ce que TLHub, est-ce qu'on peut parler de non-adaptation des usagers? Donc, est-ce que ce serait un cas où finalement, ce ne sont pas les outils ou la technique qui donnent le change, mais véritablement les usagers qui s'en détournent et imposent finalement leur propre style, quoi, qui disent, ben non, TLHub ne sera pas l'outil avec lequel on produira de la traduction. Et évidemment, je dis ça en étant très consciente que c'est aussi parce que d'autres outils, Camille en a assez longuement parlé, comme Google Doc, Google Drive, qui ont imposé par leur performance et leur perfectionnement, qui eux ont imposé de nouvelles attentes. Voilà. Merci beaucoup de votre